Nous recevons à présent Gaël Nofri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, conseiller municipal de la ville de Nice, mais nous vous recevons aujourd'hui bien en tant qu'historien, puisque vous avez publié au mois de juin aux éditions du Cerf une histoire des révolutions en France. Alors dans votre livre, vous expliquez toute la culture révolutionnaire qu'a connue la France, pas seulement celle de 1789, bien qu'une large partie du livre y soit consacrée. Et malgré cela, la France n'a pas inventé la révolution, c'est vous qui le dites, elle l'a mythifiée.
Oui, en effet, les révolutions, alors on pourrait remonter à l'Antiquité pour parler des révolutions, mais au-delà de cela, les révolutions n'ont pas été inventées en France. Il n'est qu'à même penser avant 1789 à la révolution anglaise. Et puis en France même, avant 1789, je fais remonter les révolutions au XIVe siècle et à l'époque d'Étienne Marcel.
Oui, et puis en même temps, dans ce livre, vous répondez un peu à tous ceux qui vous disent « la France est née en 1789 », en leur disant « eh bien non, la France n'est pas née en 1789 ». Alors dans ce livre, qui est assez long, presque 500 pages, comment vous avez ordonné et classé vos diverses idées? Parce que j'imagine qu'il a fallu faire des choix.
Oui, mais écoutez, j'ai essayé de partir d'une définition de qu'est-ce qu'une révolution, parce que ça me paraissait essentiel. On a effectivement tendance à tout appeler aujourd'hui révolution en France, qu'il s'agisse d'une révolte, d'une réforme, d'un coup d'État. Et donc j'ai essayé véritablement de faire la différenciation entre tous ces termes en faisant jouer notamment le critère de l'État et de la transformation de l'État. Parce qu'une révolution, ce n'est pas seulement une transformation des politiques, mais c'est une transformation du politique. Et c'est sur cette première base que j'ai bâti cette réflexion autour des révolutions en France qui donc s'étendent du XIVe siècle, c'est-à-dire avec la naissance de l'État jusqu'en mai 68.
Et néanmoins, vous dites que toute révolution est condamnée à périr. Pourquoi ?
Parce qu'une révolution, c'est d'abord et avant tout une rupture de l'égalité. Elle est marquée par une rupture de l'égalité. Donc partant de là, toute révolution est tôt ou tard amenée à substituer à l'ordre légal existant un autre ordre. Et donc à rentrer dans un ordre. C'est toute la difficulté des mouvements révolutionnaires qui ont du mal à finir, parce que ceux qui ont fait la révolution, ce que j'appelle les bras de la révolution, c'est-à-dire la masse la plus populaire, celle qui est entrée dans l'histoire, qui est sortie de son rôle social pour entrer dans l'histoire au moment de la révolution, va avoir tendance naturellement à ne pas vouloir la finir. D'où la question de comment finir une révolution.
Oui, et dans le même temps, alors si l'on se demande comment finir une révolution, on peut aussi se demander d'où proviennent finalement ces révolutions. Y a-t-il une sociologie particulière à une révolution et aux révolutionnaires ?
Oui, une sociologie, elle existe. Elle existe, c'est véritablement, on retrouve une véritable révolution lorsque les réformateurs et conduits qui appartiennent en général, on peut le dire plutôt, à la classe dirigeante de l'ordre sortant, se retrouvent en adéquation avec une masse populaire. C'est véritablement cette double rencontre, l'échec de la réforme et un mécontentement populaire qui donne naissance à la révolution. C'est un système bicéphale quelque part et qui d'ailleurs va avoir en général du mal à coexister. C'est la première ligne que l'on pourrait définir. Et puis il y a en général, et c'est pas une obligation, mais il y a en général tout de même un côté démographique dans une révolution. En général, il y a une jeunesse qui pousse derrière, on le voit particulièrement évidemment en mai 68, mais on pourrait le voir assez régulièrement, c'est souvent après des périodes de paix assez stables que l'on voit apparaître les révolutions, parce qu'une nouvelle génération essaye d'entrer et de se faire une place dans une société qui en général est sclérosée par l'incapacité de réforme.
C'est ce qui s'est passé en mai 68. Mai 68 était-il pour vous une révolution ?
C'est un très vaste débat. Ceux qui l'ont vécu, les chercheurs, on a parlé de « a-révolution », et puis vous savez que Aron a parlé de révolution introuvable. Mais qui dit révolution introuvable ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de révolution. Ça veut juste dire qu'on a du mal à la trouver, peut-être parce qu'on ne la cherche pas là où elle est. La révolution de mai 68, car à mon sens, il y a une révolution en mai 68. Et d'ailleurs, il eût suffi que le général de Gaulle ne revienne pas de Baden-Baden pour que, pour que mai 68 soit qualifié dans l'historiographie de révolution. Si elle ne l'a pas été, c'est d'abord parce qu'elle a échoué. Mais il y a une véritable révolution, et c'est une révolution générationnelle. Et pour la première fois, en tout cas une des premières fois, on pourrait s'interroger si ce n'était pas la même chose pour la Commune de 1871. Pour la première fois, en tout cas, mai 68 ne s'attaque pas seulement au pouvoir, mais s'attaque à la notion même d'ordre, ce qui est beaucoup plus important, ce qui est beaucoup plus vaste. Et quelque part, dans mai 68, la notion du renversement du pouvoir est presque secondaire. C'est la notion d'ordre. D'où cette difficulté à qualifier véritablement mai 68, car c'est la première révolution qui, finalement, ne cherche pas tant à substituer un pouvoir à un autre pouvoir. C'est un peu la difficulté d'approche.
Oui, et peut-être, Gaël Nofri, faut-il aussi faire attention avec la portée des mots, à savoir l'énorme différence qu'il y a entre une révolte et une révolution.
Oui, c'est évidemment toute la question. Comme je vous disais, la différence entre la révolte et la révolution est que la révolution porte en elle véritablement une aspiration à un changement de pouvoir. Pas seulement un changement de politique, mais un changement de pouvoir, de nature du pouvoir, un changement de base de la souveraineté, de la légitimité à gouverner les hommes. C'est la question de mai 68. Est-ce que, oui ou non, il y a eu cette aspiration à un changement de la légitimité ? Ma réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a véritablement, à ce moment-là, une remise en cause de ce qui fonde les bases de la société, les bases de la notion d'ordre, et véritablement les aspirations sociales en tant que telles. Ce n'est pas seulement des choix politiques. Il y a une remise en cause des choix politiques qui sont un peu de l'ordre de la révolte dans le mai 68, des ouvriers, des travailleurs, celui qui résiste aux accords de Grenelle, notamment. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de mai 68. Et je dirais presque que c'est quelque chose qui est secondaire dans mai 68. Alors secondaire, c'est un mauvais mot parce que c'est une immense manifestation, c'est un mouvement très important, c'est un mouvement qui aboutit à plein de choses. Mais ce n'est pas l'âme du mouvement de mai 68. L'âme du mouvement de mai 68, sa base, sa structure intellectuelle, elle est estudiantine, elle est générationnelle. Et l'esprit de mai 68, ce n'est pas l'esprit des aspirations des travailleurs à une revalorisation des salaires, du SMIC ou des jours de congé.
Pour en revenir à présent à une échelle plus large et à un temps plus contemporain, voyez-vous au XXIe siècle des révolutions émerger ? L'on pourrait citer peut-être par exemple la révolution numérique liée à celle de l'intelligence artificielle et à l'émergence de nouvelles entreprises telles que les GAFAM ou les BATX. Voilà, je prends ici l'exemple de la révolution numérique, je pourrais également en citer d'autres.
Oui, ben, je pense qu'on n'est pas du tout là encore. On est sur une utilisation du mot révolution qui est tout à fait différente. En termes historiques en France, en tout cas aujourd'hui, nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, dans une situation révolutionnaire, parce que sociologiquement nous n'y sommes pas, parce que les aspirations ne s'y retrouvent pas, parce que le contexte n'y est pas. Mais les révolutions ne sont pas finies. Il y aura des révolutions, l'histoire n'est pas finie, donc l'histoire verra des révolutions. En France, c'est une chose, mais on voit que dans le monde, des révolutions différentes sur d'autres modèles sont en train de s'esquisser. La France a bâti le premier grand modèle de révolution. La révolution française de 1789 a été véritablement le premier modèle exportable de révolution. Il n'y a pas eu tant de modèles dans l'histoire que ça. On pourrait citer effectivement la révolution à côté de la révolution française, peut-être le modèle bolivarien, en tout cas d'Amérique du Sud, le modèle soviétique et puis très particulier le modèle chinois. Mais au-delà de ces modèles, il n'y a pas eu véritablement de grands modèles. On voit au XXIe siècle, mais qui est un héritage du XXe siècle, la question des révolutions arabes, qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais si on regarde la révolution arabe, en tout cas dans le cadre égyptien et tunisien, le Libyen étant totalement différent du fait de l'intervention extérieure, mais on voit de nouvelles caractéristiques spécifiques à ces pays-là, notamment avec le rapport entre islamistes et pouvoir laïque. se dessiner.
Merci beaucoup Gaël Nofri, historien, d'avoir répondu à nos questions. Et si vous voulez bien évidemment explorer le sujet, je vous invite à lire le livre de Gaël Nofri, Une histoire des révolutions en France, qui est paru ce mois-ci aux éditions du CERF. Et dans ce livre, vous mettez donc bien en avant que la révolution est entrée dans l'histoire de France.
Évidemment. Merci beaucoup.